Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, réalisée par Eliane Girard et Frédéric Milano et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Stéphane Touvenin. La gourmandise de ce matin, c'est le réalisateur Abel Gance, confiant à Werner Herzog ne jamais rien prendre au sérieux, mais tout au tragique. Journaliste, écrivain, linguiste, grammairien, critique littéraire et musical et verbicruciste, notre apothicaire de l'âme est un homme orchestre aussi fin qu'érudit et l'auteur d'un de mes livres de chevet, le brillant traité de la ponctuation française. Avant cela, il étudie les lettres et le cinéma, écrit une thèse intitulée « La loi formelle et son influence sur la création artistique et littéraire », rédige ses premières critiques de cinéma dans la revue L'Écran Lorrain, enseigne la musique dans un collège de Nancy et donne des leçons de piano et de flûte. Tout cela pourrait déjà être divisé en trois vies, mais notre homme devient aussi ténor dans des ensembles vocaux, technicien son et acteur dans une troupe de théâtre et co-réalisateur de courts-métrages, ça n'arrête jamais. En 75, il s'installe à Paris et officie sur France Musique. Mélomane et musicien, il fonde la revue Symphonia, collabore à divers journaux, il fut l'une des grandes plumes de l'Obs, enseigne la linguistique et la stylistique, anime un café littéraire à Coulommiers, je ne peux pas résister au fait de le dévoiler, et collecte et transmet 1000 réjouissances dans de nombreux ouvrages et sur un délicieux blog savant, maintenant hébergé par le site de Pierre Assouline, La République des Livres. Bonjour Jacques Drillon.
Bonjour, c'est effrayant.
Effrayant. Jacques Drillon, dans votre essai autobiographique Cadence, vous commencez par la confession d'un désamour de vous-même, un désamour de soi qui peut donc engendrer la mélancolie. Jamais je n'ai voulu être un autre plus violemment que pendant mon enfance. Tout ce qui n'était pas moi me semblait désirable et supérieur. Un peu plus loin, je suis née lassée de moi-même. La première question de l'émission inévitable, c'est quel est votre rapport à la mélancolie, et en particulier en sachant cela ?
À la mélancolie, je serais assez embarrassé pour vous répondre parce que j'avoue que je ne sais pas très très bien ce que ça veut dire. Enfin, pas trop bien ce que c'est que la mélancolie. Je sais ce que c'est que la... la tristesse, le cafard, le désespoir, mais la mélancolie, c'est un terme un peu générique, un peu joker d'autres, si bien que je n'ai pas de remède à la mélancolie. Enfin, ce que je peux vous dire, c'est que si je, bon, je comprends très bien ce que veut dire ce mot, évidemment, mais je ne vois, il n'évoque rien en moi. En tout cas, j'ai pas eu, je ne crois pas avoir eu affaire à la mélancolie. J'ai eu affaire à tout le reste.
À l'angoisse en particulier,
vous à l'angoisse, avez... oui. Oui, à l'ennui, le cafard était terriblement fort, surtout quand j'étais petit, mais...
Et le cafard
Maintenant, j'ai appris que, en fait, ce qui rendait triste, c'était ce qui faisait du mal, et qu'il fallait lui rentrer dans le chou d'une certaine manière, enfin, qu'il fallait l'accepter et savoir exactement ce que c'était. Parce que, en réalité... comment dire, ce mal-là n'existe que par rapport à un autre, à un bien qui lui est opposé et qu'il faut apprendre à réconcilier les deux, à les relier. On va peut-être parler de Céline aujourd'hui.
Oui.
Céline, c'est le cas typique du mal et du bien dans un seul homme.
On va reparler de Céline et on va parler aussi évidemment du mal et du bien et de Nietzsche évidemment. Mais Jacques Drillon, vous dites dans Cadence, ça je ne le savais pas, que Buffon montre que les trois quarts des hommes meurent de chagrin.
Ah oui, c'est une phrase extraordinaire, oui. Mais Buffon a travaillé sur des sujets complètement vraisemblables, notamment beaucoup sur la démographie. Et donc il a à un détour comme ça cette affirmation. Enfin, j'espère que ce qu'il dit du cancrelat ou du scorpion est plus exact. Parce que je ne pense pas. Enfin bon, il y avait ses statistiques à lui, les statistiques les nôtres sont pareilles. J'ai appris l'autre jour qu'il y avait, je ne sais plus, un être humain sur cinq qui avait des doutes sur son identité sexuelle. Je pense que c'est très 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 excessif, non ? J'ai appris aussi dans une étude commanditée par le ministère de la Culture qu'il y avait 7% des Français qui avaient assisté à un concert de musique classique dans l'année qui a précédé. Ça me fait doucement rigoler.
Rigoler ou vous attrister?
Oh, je m'en fiche, c'est leur problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut retirer, il faut déplacer la virgule d'un cran, c'est 0,7% peut-être.
Ah oui, vous êtes pessimiste. Jacques Drillon, je me permets de mettre en doute quand même ce que vous me dites quand vous dites ne pas savoir ce qu'est la mélancolie. Parce que dans Cadence, le mot apparaît plusieurs fois, notamment à un moment, vous avez un remède très concret. Vous dites, pour contrer la mélancolie, je prenais les partitions des sonates de Mozart que je sortais de mon casier.
C'était le cafard.
Oui, mais vous appelez ça la mélancolie.
Ben voilà, je me suis trompé de mot.
Non, je ne vous crois pas, vous ne pouvez pas vous tromper de mot. Vous êtes trop précis, Jacques Drillon, et puis vous avez quand même publié Charles d'Orléans ou le génie mélancolique.
Ah oui, mais c'est la mélancolie au sens étymologique, c'est la bile noire.
Oui. Oui. Et alors ça, quel est votre rapport à la bile noire? J'aurais dû commencer comme ça.
Mais non, honnêtement, j'ai commencé en vous disant que je ne savais pas très très bien, que je n'ai pas éprouvé ce sentiment-là, je ne crois pas l'avoir éprouvé. J'ai énormément éprouvé de nostalgie, ça c'est vrai. Et donc, quand j'étais interne, comme ça, j'avais de très très grands moments de cafard, de nostalgie. Donc, et j'avais besoin, dans ce monde extrêmement hostile, d'y trouver un peu de chaleur, d'humanité, de beauté, voilà. Donc, la musique me servait à ça.
On va aborder tout ça avec vous, également auteur du livre des regrets. Donc dans quelques instants, Jacques Drillon, vous allez convoquer Mozart, Sacha Guitry, des partitions, Nietzsche, Anita O'Day, l'inhérence du mal au bien et inversement, Céline, des listes et un bâton de chaise bien fait. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
Elles ont pas la même chose en
L'impératrice Peur des filles, dans Remède à la mélancolie sur France Inter, en compagnie de Jacques Drillon et de Sacha Guitry.
Et madame pense que j'aurais aussi bien fait de me taire. C'est de la faute de madame si j'ai parlé. Madame le comprend pas. Comment madame le comprendrait-elle? A-t-on jamais vu un patron comprendre un domestique? Nous, au bout de 8 jours qu'on est chez quelqu'un, on connaît déjà tous ses défauts. Et au bout d'un mois, on sait tout ce qu'il pense. Lui, quand même, qui nous garderait 5 ans à son service. Il ne sait rien de nous lorsque nous le quittons. Et c'est ce jour-là seulement qu'il pense à nous demander quel est notre nom de famille. Il y en a-t-il qui seraient étonnés, mon Dieu, mon Dieu, si on leur disait tout ce qu'on sait sur eux. Ainsi, madame, avant de partir, est-ce que madame veut me permettre de lui donner mon opinion et un conseil? Eh bien, que madame ne cherche donc pas à se faire épouser par monsieur. Non, madame, non. Que madame comprenne bien qu'avec un homme comme ça, elle serait perdue s'il l'épousait. Monsieur est ministre, madame. Faut pas que madame oublie ça jamais. Il est ministre. Et vis-à-vis de ses collègues, cet homme-là, il se croit obligé d'avoir une amie. Si c'était plus madame l'ayant épousé, ben, c'en serait une autre à la place de madame. Madame ne connaît pas ce monde-là comme je le connais moi-même. Les hommes politiques, c'est presque tous des provinciaux. Alors ces gens-là, comment qu'ils auraient l'air un peu parisiens s'ils n'avaient pas des maîtresses? Il faut que madame comprenne ça. Oh, et puis que madame reprenne donc son théâtre. Mais oui, que madame se fasse engager, au besoin même à l'Odéon, ça ne fait rien. Parce qu'une actrice, ça flatte. Madame n'écoute donc pas ce que dit monsieur. Oh, que c'est drôle. C'est à croire vraiment qu'on entend bien qu'à travers les portes.
1937, le film Désiré de Sacha Guitry, adapté de sa pièce de théâtre éponyme. Jacques Drillon, je vous laisse remettre cette scène en contexte. Tout est charme dans ce film, comme souvent chez Guitry.
Oui, oui, parce que si on voit ça joué par quelqu'un d'autre, ça tout change, c'est drôle. Même sa manière... Enfin, il a une manière de jouer faux qui est absolument, je trouve, incomparable, irremplaçable. Il est comme tous les grands acteurs, à vrai dire. Je crois que tous les grands acteurs jouent faux, un petit peu. Enfin, jouer faux, Depardieu joue faux. Les gens qui cherchent à jouer vrai se cassent la figure. Et là, il a sa manière. Et alors, cette manière extraordinairement raffinée de dire le français, qui s'entrechoque, qui frotte un petit peu contre le texte lui-même, parce que comme c'est un domestique qui parle, il ne le fait pas parler comme une personne de la haute société, contrairement à ce que fait Racine, qui fait parler ses domestiques ou ses confidents en alexandrin. Lui, il adapte un petit peu. Et alors, il continue avec sa voix à dire ces choses, et qui saurait, et ces choses-là, c'est délicieux, c'est irrésistible. Et c'est tellement français, on a l'impression qu'il a un phylactère au-dessus de la tête qui dit « attention, français ».
Alors, il faut dire quand même que les acteurs, les rôles charmants dans ce film, ce sont ceux des domestiques, puisque les patrons sont gentiment grotesques.
Oui, mais comme souvent... Enfin, je veux dire, les domestiques sont souvent plus intéressants. On verra tout à l'heure avec la petite Barberine de Mozart, c'est exactement ça. Ils s'intéressent aux petites gens. Les petites gens ont plus de vie, ont plus de problèmes aussi. Et les riches ont des problèmes de riches, c'est pas intéressant.
Oh, ça peut être intéressant parfois.
Oui, quand ils le sont, oui. Oui,
oui, quand ils le sont, ça arrive aux meilleurs d'entre nous.
Oui, c'est ça, d'être riche.
Non, d'être riche, non, mais d'être intéressant. Jacques Drillon, dans l'un de vos ouvrages, Le Curos d'Awa, vous citez Guitry, vous citez une jolie formule de Guitry, « Comme j'aurais souffert si j'avais voulu ».
Ah oui. Oui, c'est cette dérision-là, moi, qui je trouve que c'est mieux qu'être mélancolique, enfin, c'est mieux... C'est comme Céline qui disait « Je ne peux pas servir de modèle, je ne suis pas assez méchant ». Et voilà, cette petite distance, cette petite politesse, comme ça, intellectuelle.
Monsieur, vous n'avez pas mal joué. Vous connaissez la position du corps, votre jeu ne manque pas de sentiments. Votre archer bondit, votre main gauche saute comme un écureuil, elle file comme une anguille sur les cordes. Vos ornements sont ingénieux et parfois charmants, mais je n'ai pas entendu de musique. Vous pourrez aider les gens qui dansent, vous pourrez accompagner les acteurs qui chantent sur scène. Ce que vous écrirez plaira, n'épouvantera jamais. Vous gagnerez votre vie. Votre vie sera entourée de musique. Mais vous ne serez pas musicien.
Jean-Pierre Marielle, dans Tous les matins du monde d'Alain Corneau, pour introduire l'activité qui vous grise, Jacques Drillon, faire de la musique, activité dont vous faites l'éloge dans votre essai La musique comme paradis. Et je ne peux pas citer le nombre invraisemblable d'ouvrages que vous avez consacrés à des musiciens. Mais là, parlons du bonheur de jouer. Vous pratiquez la musique depuis très longtemps.
Oui, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en réalité, il y avait une grande différence entre l'écouter et la jouer. Et qu'on avait, on éprouvait des sentiments extrêmement forts, parfois même violents, quand on l'écoute. Mais que lorsqu'on la jouait, on changeait de monde, on changeait vraiment de réel, on quittait le monde. C'est-à-dire qu'on entrait dans un monde où les lois de celui-ci n'existent plus, ne sont plus respectées. Il n'y a plus de vrai, de faux, de haut, de bas, de long, de court. De blanc, de noir, de lumineux, de sombre. C'est un monde qui n'obéit plus, deux et deux ne font plus quatre, qui n'obéit plus aux lois. C'est un oubli de Dieu. Dieu a oublié de casser ça aussi, à sa manière à lui, qui est de toujours casser tout en deux. Là, la musique est indivise, c'est une sphère, voilà. Et on entre dans cette sphère-là quand on la joue.
Vous citez Sioran, une plénitude sans contenu.
Voilà, exactement, une plénitude sans contenu, ça donne cette idée de rondeur, une autre sphère qui serait tangente à la Terre, et où il se passerait des choses qui ne se passent pas sur Terre, et dans laquelle on peut entrer. Rien de ce qui fait que il n'y a pas d'apparence, il n'y a pas de réel, il n'y a pas de ces choses-là qui font que la vie est insupportable sur Terre. Le fait que on croit que la duchesse de Guermantes, c'est la duchesse de Guermantes, et puis quand on la voit, ben c'est plus du tout la duchesse de Guermantes. C'est une femme comme les autres, etc. Ça, cette déception-là n'existe pas dans la musique. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de bêtise, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de loi physique, il n'y a pas de loi.
C'est un absolu.
Oui, c'est un absolu. Et c'est un absolu qui est offert à tout le monde, il suffit d'apprendre.
Vous jouez du piano, Jacques Drillon, quoi d'autre?
Disons que c'est tout. Les gens jouent déjà suffisamment mal pour ne pas m'enfoncer.
Il y a une très belle anecdote. Vous vous êtes fait fabriquer un beau clavecin.
Oui, j'en ai monté dans le temps. Je montais des kits de clavecin avec un ami. C'était l'ergothérapie. Voilà un bon remède à la mélancolie, si vous voulez. C'est le travail manuel notamment. Mais j'ai fini par en avoir un que j'ai terminé moi-même, qui est extraordinairement beau. C'est un des plus beaux instruments que je connaisse.
Entre vos livres et votre piano, chez vous, vous ne désirez pas être ailleurs. C'est ce que vous écrivez dans Cadence. Ça vous suffit? Les livres et la musique?
Ce que je préfère, c'est la vie quotidienne. C'est c'est d'être comme hier. C'est pour ça d'ailleurs que je suis fumeur. On ne fume pas pour le plaisir, parce qu'il n'y a aucun plaisir à fumer. Je nie ça farouchement. Mais je suis fumeur parce que j'étais fumeur hier et que je veux que ça continue comme hier. Je voudrais que les choses ne changent pas.
La nostalgie de nouveau.
Voilà, exactement. Exactement. Je n'aime pas les grands événements, je n'aime pas les grandes aventures, je n'aime pas les bouleversements. J'aime pouvoir me lever, me mettre au travail, faire de la musique éventuellement. Travailler, oui, dans une espèce de... Je déteste tout ce qui met dans un état second. L'ivresse, la drogue, toutes ces choses me terrifient. Et ce que je voudrais simplement, c'est que ça ne change absolument jamais. Que la vie se déroule.
Comme dans une partition, finalement.
Bah, dans une partition, il y a des heures, il se passe des choses quand même parfois.
Mais c'est un cadre.
Oui. Non, mais je trouve que ce qui est bien, c'est effectivement de prendre le petit déjeuner en écoutant la radio et sans avoir de crainte pour ce qui va se passer, sans avoir de regret pour ce qui s'est passé. Pouvoir avancer dans de l'huile. Oh,
c'est difficilement atteignable, mais enviable. Jacques Drillon, vous avez dirigé beaucoup d'enregistrements pour Harmonia Mundi, dont l'intégrale des sonates de Mozart. Et justement, c'est à Mozart qu'on s'intéresse maintenant. Il paraît que vous avez honte de l'aimer à ce point-là.
Honte, c'est beaucoup dire, mais
c'est ce que vous écrivez.
C'est-à-dire que ça devient pénible pour les autres quand on parle tout le temps de la même personne.
Vous êtes obsessionnel.
Comme les Proustiens qui vous.
Et vous êtes Proustien aussi.
Oui, mais j'ai connu cette période-là où les gens attendaient que ça s'arrête, quoi. C'était un petit peu désagréable pour eux. Et Mozart, c'est un petit peu comme ça. Même chez les musiciens, personne n'aime Mozart autant que moi. Alors, je me sens un peu seul.
Oh!
La cavatine de Barberine dans Les Noces de Figaro de Mozart, interprétée par Barbara Vogel sous la direction de Karl Böhm. L'O perduta me mesquina. De quoi est-il question, Jacques Drillon ?
D'une petite fille qui s'appelle Barberine et qui a perdu son aiguille. Et c'est extraordinaire parce que c'est un des plus beaux airs de tout cet opéra. Ce personnage apparaît à ce moment-là, disparaît après. C'est une petite fille, elle a perdu son aiguille, elle est triste. Et le quatrième acte commence comme ça. Et on voit tout de suite l'esprit de Mozart qui ne s'intéresse qu'aux choses intéressantes. Et donc si c'est une petite fille, ben c'est une petite fille. Et il lui donne un air très bref, qui ne fait, je sais pas, peut-être 50 ou 60 mesures, qui est écrit en fa mineur, qui est une tonalité très sombre.
Le temple de la plus haute noblesse, vous écrivez.
Oui, c'est ça. C'est un air de reine. Il donne à cette petite fille un air de reine. Et c'est injuste, d'une certaine manière. C'est un peu comme les ouvriers de l'onzième heure. Vous voyez, je sais pas si vous vous rappelez cette parabole. C'est une parabole extraordinairement mystérieuse. Jésus raconte qu'un jour, un viticulteur a engagé des ouvriers pour travailler dans sa vigne. Le matin, très tôt, il leur dit, je vous paierai un denier. Et puis, 3 heures plus tard, il va chercher d'autres ouvriers. Il leur dit, je vous paierai justement. Et puis, encore plus tard, il dit à des ouvriers, venez travailler à ma vigne puisque vous n'avez rien à faire, et c'est tout. Et à la fin de la journée, il paye tout le monde un denier. Ceux de la première heure comme ceux de la onzième. Et ceux de la première sont furieux en disant, mais tu les as payés autant que nous alors qu'ils ont travaillé 1 heure et nous 11. Et le viticulteur leur répond, mais c'est le contrat, je vous avais promis un denier, vous l'avez, donc vous êtes content. Oui, mais eux, ils ont moins travaillé que nous. Ah oui, mais mon amour, il n'est pas divisible. Dit le viticulteur. L'amour, c'est un tout, c'est un peu comme la musique, c'est une sphère, c'est un divi. Et c'est ça, la véritable générosité, n'est-ce pas ? C'est de donner autant à ceux qui ont peu travaillé qu'à ceux qui ont beaucoup travaillé. Et Barberine, c'est ça, c'est l'ouvrière de la 11e heure. On lui donne le maximum, alors qu'elle a 2 minutes à chanter.
Jacques Drillon, vous avez fait un autre choix musical, c'est That Old Feeling par la chanteuse de jazz américaine Anita O'Day, la version de son Live in Tokyo donnée en 1963. Un mot dessus avant que nous l'écoutions.
Anita O'Day était une chanteuse de jazz blanche, extrêmement chic, un peu Doris Day, comme ça, très rayonnante. Elle chantait avec des chapeaux à plumes, des gants blancs, des tailleurs absolument parfaits. Et donc elle tranchait vraiment beaucoup dans ce milieu. Et quand elle est venue chanter à Paris, je crois que c'était au Palais de Chaillot en 70, elle s'est fait huer. Elle s'est fait huer pendant une demi-heure. Et pourquoi elle s'est fait huer ? Parce qu'elle n'était pas noire. Jusqu'à ce que Charlie Mingus, qui faisait la deuxième partie, vienne sur scène et dise « Ce que vous faites en ce moment à Anita O'Day, nous, on nous le fait tous les jours aux États-Unis, à nous les Noirs. »
I saw you last night and got that old feeling. When you came in sight, I got that old feeling. The moment that you danced by, I felt a thrill. And when you caught my eye, my heart stood still. Once again I seem to feel that old yearning. And I know the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me, foolish to start, for that old feeling. Still in my heart, I saw you last night and got that old feeling. When you came in sight, I got that old feeling. The moment that you danced by, I felt the thrill. And when you caught my eye, my
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Jacques Drillon. Nietzsche est l'auteur de votre citation Becky qui sonne comme un paradoxe. Il faut protéger les forts contre les faibles. J'aimerais savoir, Jacques Drillon, comment vous entendez cette phrase. Est-ce qu'il s'agit du grand, du noble contre le bas, le vil, le petit, le médiocre et les êtres de ressentiment? Moi, c'est comme ça que je l'entends, mais je me trompe.
Oui, c'est le nombre surtout. C'est...
La masse.
Oui, le nombre. Comme dit Delphine de Ton, le con est nombreux. Et le con est nombreux, ça veut dire qu'il finit par avoir une force absolument inouïe. D'ailleurs, on voit bien maintenant ce qui se passe, quoi. C'est, voilà. Et ça me rend effectivement, si je peux employer ce terme, assez mélancolique, le fait que le faible gagne toujours.
Le faible gagne toujours?
Enfin, on a un Premier ministre qui s'appelle Jean Castex.
Oula, je sens qu'on dérape.
Sous prétexte qu'il a été nommé Premier ministre, il se croit Premier ministre. Et ça, comme dirait Godard, c'est absolument inguérissable.
Oui, mais ça, c'est le jeu de la politique, et là, ça existe depuis des siècles. Et...
Bien sûr, j'ai pas dit le contraire.
Et puis, dès que l'homme se prend au sérieux, il est forcément grotesque.
Il a toujours fallu que les forts doivent être protégés contre les faibles. C'est une vérité éternelle. C'est pas... Ce que Nietzsche dit ne tient pas... Je veux dire, c'est... Oui. Pardon, allez-y.
Non, mais on pourrait en parler des heures, vraiment. Mais votre credo, Jacques Drillon, pourrait être proféré par Nietzsche, qui prenait le principe stoïcien de la mort fatie ou l'adhérence au réel dans toute sa complexité, puisque votre credo, le voici, sans le mal, pas de bien. Et vous écrivez dans Cadence, « Fuir les embarras que la vie oppose présente autant d'inconvénients que d'avantages. La fluidité et la gaieté sont préservées aux dépens de la résistance. Vous ne fuyez pas le tragique, le drame, la douleur, le mal. »
Mais d'abord, la plupart du temps, on ne peut pas fuir. S'il y avait un moyen de fuite, souvent on le ferait. Mais je trouve que on ne comprend ça que si, on comprend ces choses-là que si on sait que le mal est absolument partout. Vous savez, il y a Kertész qui raconte que on parle toujours du mystère du mal. Les catholiques parlent du mystère du mal. Kertész il raconte que dans le wagon, dans je ne sais quel wagon plombé, un juif a donné la moitié de sa ration à un autre juste avant d'arriver dans je ne sais quel camp de la mort. Et il dit, et ça c'était vraiment incompréhensible, que quelqu'un donne la moitié de sa ration, c'est ça, le mystère est là, le mystère
dans
est dans
le bien,
et non pas dans la mort, oui. Et alors, donc quand vous lisez par exemple le bouquin que Philippe Muret a écrit sur Céline, il explique ça très bien, et ça serait trop facile de partager comme ça, de dire, ben voilà, il y a une partie de son œuvre qui est géniale, Voyage au bout de la nuit, ses romans, etc., et puis une partie absolument innommable qui sont ses pamphlets. Voilà, c'est très très commode de dire ça. C'est le même homme qui a écrit tout ça. C'est le même qui a été un salaud fini, et un génie total, et un compassionnel, et un bon médecin, et il a été tout ça. Nous sommes tout ça. Et qui sont ces gens? Qui sommes-nous pour aller crier à mort quand passe Weinstein ou quand passe Polanski ou quand passe Matzneff? Qui sommes-nous pour les insulter, pour crier à mort comme les tricoteuses au pied de l'échafaud? Enfin, si on fouillait dans la vie de ces gens qui crient à mort, mais on trouverait la même merde que chez nous, que chez eux. On en est tous là. Et donc c'est pour ça que il ne faut pas chercher le remède, il faut chercher effectivement à dire oui à tout ça, à admettre. Je ne dis pas c'est bien, je ne dis pas c'est mal, je dis ça a été, c'est. Voilà.
Pourquoi pensez-vous qu'on ait autant de mal avec la part monstrueuse qu'il y a en chacun de nous, Jacques Drillon?
Parce que c'est pas très très agréable, parce que c'est très amer.
Oui, mais c'est comme si on l'effaçait totalement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on la supporte pas, elle n'existe pas.
Absolument.
Et si jamais elle se montre
c'est
un
ça,
tout
la
petit peu,
culture, là, bien, c'est ça.
Oui, mais si elle
ça.
Se montre un tout petit peu, on veut l'annihiler, on veut que la personne voilà. S'excuse d'exister.
Voilà.
Ça ne veut pas dire qu'on soutient ce qu'elle fait hein, dans sa monstruosité, mais ça veut dire peut-être qu'il faudrait un peu plus de nuances.
Oui, ça, la nuance, oui.
Courage, à la nostalgie.
Le courage de la nuance, a dit, je ne sais plus, c'est un bouquin récent de
ah,
Jean
oui,
Birnbaum,
oui,
je crois.
Oui.
Oui, puis alors comme moi, en plus, je suis un héros du doute, si j'ose dire, comme pour dire, reprendre la formule de Bernanos. C'est-à-dire que je ne suis absolument pas sûr de tout ça. Je ne suis pas sûr que ça soit bien, que ça soit mal. J'ai vu tant d'erreurs, d'hypocrisie, etc. Je ne suis pas sûr. Donc je suspends mon jugement et j'aimerais bien qu'on soit plus nombreux à le faire.
Écoutons une femme du monde.
Je suis femme du monde et non pas putain, n'est-ce pas? Par conséquent, j'ai des faiblesses pour qui je veux. Mais, mon Dieu, je veux dire aussi ce que je veux, n'est-ce pas? Une femme du monde, elle a un choix dans un salon, n'est-ce pas? Mais, on n'a pas à lui dire, dites-nous, mais non, tandis que si la femme est professionnelle, dame, elle prend le client, n'est-ce pas? Moi, le client ne m'intéresse pas. Je suis femme du monde, n'est-ce pas? Oui, oui, voilà le petit côté de l'histoire. Mais ils sont très difficiles. En ce moment-ci, on les explique mal parce que le monde est matérialiste et ils se demandent pourquoi, ce qu'il a fait ça, si qu'il avait un intérêt. Mais je n'avais aucun intérêt. J'étais uniquement sacrificiel. Je me sacrifiais pour mes semblables. Oh ben, ils n'en valent certainement pas la peine. Et dame, j'ai essayé de leur faire couper à la guerre. Ah ben, c'est une chose qu'ils ne conçoivent même pas. Ça leur est pas plus compréhensible que la quadrature du cercle, qu'on se jette dans une mêlée gratuitement. Et je suis gratuite. Je suis fan du monde, je suis gratuite.
Louis-Ferdinand Céline au micro de Louis-Albert Sbinden en 1957 sur la radio suisse romande. Jacques Drillon, vous avez choisi Mort à crédit de Céline, publié en 36. Sans doute le roman, vous qui aimez les inventaires, dans lequel on compte le plus de gens qui vomissent dans toute l'histoire de la littérature française. C'est-à-dire les gens vomissent, les chiens vomissent, les gens avalent, pardon si vous êtes au petit déjeuner, le vomi d'autres personnages. C'est insensé du début à la fin du roman. Vous aviez noté ça?
Je n'avais pas remarqué ça du tout, non. Non. Vous me l'apprenez.
Oui, bah écoutez, je suis toujours là, comptez sur moi pour les choses importantes quand on parle de littérature. Mort à crédit de ce monstre du style.
Alors, je vais vous lire quelques lignes. Deux fois quelques lignes. La première fois, c'est un petit épisode au début. Il y a un petit chien qui le suit dans la rue. Et donc il se dit, il faut le mettre, il a faim, enfin il faut s'en occuper. Il va à son dispensaire, et voilà ce qu'il écrit. J'ai dit à Madame Hortense, on va nourrir le petit Kleps. Il faut que quelqu'un cherche de la viande. Demain à la première heure, on téléphonera. Ils viendront de la protectrice le chercher avec une auto. Ce soir, il faudra l'enfermer. Alors je suis reparti tranquille. Mais c'était un chien trop craintif. Il avait reçu des coups trop durs. La rue, c'est méchant. Le lendemain, en ouvrant la fenêtre, il a même pas voulu attendre. Il a bondi à l'extérieur, il avait peur de nous aussi. Il avait cru qu'on l'avait puni. Il comprenait rien aux choses. Il avait plus confiance du tout. C'est terrible dans ces cas-là. Et puis un autre petit passage, ça c'est pour le changement. C'est un peu plus loin dans Mort à crédit. Enfin, vous avez vu, là, quand même, la rue, c'est méchant. Est-ce qu'il y a une phrase plus huilée, plus... Enfin, c'est fantastique, mon beau, quoi, tout simplement. Enfin. La Seine a gelé cette année-là. Je suis né en mai, c'est moi le printemps. Destiné ou pas, on en prend marre de vieillir, de voir changer les maisons, les numéros, les tramways et les gens de coiffure autour de son existence. On vous gaspille la sympathie. Je veux plus changer. J'aurais bien des choses à me plaindre, mais je suis marié avec elle. Je suis navrant et je m'adore autant que la scène est pourrie. Celui qui changera le réverbère crochu au coin du numéro 12, il me fera bien du chagrin. On est temporaire, c'est un fait, mais on a déjà temporé assez pour son grade.
Jacques Drillon, vous venez de lire deux extraits magnifiques de Mort à crédit de Louis-Ferdinand Céline. Tout de même, on est dans une émission, évidemment, qui ne fonctionne pas, hein, sinon j'aurais pas de travail depuis autant d'années, mais ça s'appelle Remède à la mélancolie. Dans Mort à crédit, il y a quand même ce constat qu'on retrouve presque toujours chez Céline, de ce monde absolument violent, de l'être désabusé, de la haine de soi, du fait de ne pas pouvoir habiter le monde à cause de sa violence. C'est très très noir, là je dis une banalité terrible, mais c'est très très noir.
Mais c'est le fait de... Enfin, moi, ça me rend heureux.
Parce qu'il en fait
ça,
de la beauté.
Ça me fait jubiler, au contraire. C'est parce qu'il dit ce qui est. C'est un fanatique de la vérité. Il dit ce qui est. Et quand quelqu'un vous dit ce qui est, vous voulez le serrer contre vous. Enfin, c'est très, très précieux. Et il le dit de cette manière, parce qu'on a toujours parlé de la violence de Céline, de sa noirceur. Mais enfin, c'est quand même d'une beauté insurpassable. C'est une langue incroyable. Il faut remonter à, je sais pas, à Rousseau pour trouver aussi beau.
Non, mais c'est sublime.
Peut-être même à La Fontaine, je ne sais pas. Voilà. c'est poli, ça. C'est poli comme de l'huile, comme dirait Baudelaire. Et donc, oui, il faut remonter à la fontaine. C'est les deux pigeons. Ai-je passé le temps d'aimer ? Enfin, c'est ça, quoi.
Jacques Drillon, vous aimez les inventaires. Moi, si j'en faisais un sur cette émission, je noterais que vous avez déjà dit au moins 3 fois le mot huile. Je crois que vous avez un tropisme avec lui. Our Way Now de Noël Gallagher's High Flying Birds dans Remède à la mélancolie sur France Inter avec Jacques Drillon. Nous vous avons demandé une œuvre d'art consolatoire. Vous avez répondu un bâton de chaise bien fait en nous renvoyant vers Peggy. Alors on va venir à Peggy, mais avant soyons littéraux. Un bâton de chaise, alors parce que j'ai regardé. En fait, vous savez, à chaque fois que je ne sais pas comment nommer quelque chose, je me dis que Georges Perec l'aurait su, parce qu'il a plus de vocabulaire que quiconque. Un bâton de chaise, c'est les bâtons de chaise à porteur, parce que sinon c'est un barreau de chaise. De quoi parlez-vous exactement, Jacques Drillon ?
Oui, du barreau de chaise. Enfin, il faut demander ça à Peggy.
Oui, alors justement, Peggy. Peggy, en 1913, hein, il publie dans les cahiers de la quinzaine un essai intitulé « L'argent »,
oui,
très nostalgique, l'éloge des instituteurs et du monde d'antan. Et Peggy, vous le rappelez, Jacques Drillon, est le fils d'une rempailleuse de chaises et d'un menuisier. Vous vous écrivez sur lui dans Cadence. Et je vous laisse nous parler de ce passage.
Il dit qu'autrefois, il fallait qu'un bâton de chaise fût bien fait. Pas pour, enfin, je me souviens plus du texte exact, mais pas pour le patron, pas pour répondre à une certaine demande, pas parce qu'on le lui avait dit, pas parce qu'on lui avait demandé, pas parce qu'on lui avait intimé l'ordre. Enfin, il y a toute une liste, parce que Peggy, question inventaire, il s'y connaît aussi. Mais simplement parce qu'il fallait en soi que le bâton de chaise fût bien fait. Et je trouve que, enfin, il y a une phrase qu'on n'a plus le droit de dire, c'est absolument interdit par la pensée unique, c'est que c'était mieux avant. Alors, je peux aussi dire quand même que ça sera pire de après. Ça, j'ai encore le droit. Mais ce qui est certain, c'est que on est dans une période où les choses deviennent quelque chose d'autre. Que le voyage est devenu le tourisme, que le loger chez l'habitant, ça s'appelle prendre une chambre d'hôte, que apprendre un métier, ça s'appelle une convention de stage, que jouer du ballon, c'est devenu du football et c'est devenu la FIFA. Enfin, ces choses-là deviennent. Ça, il y a une sorte d'involution. Et que c'est pas parce que on a toujours dit depuis des siècles, c'était mieux avant, que la phrase est fausse. Il y a des choses qu'on dit depuis des siècles qui sont toujours justes. Et je pense que Peggy met le doigt sur quelque chose qui est absolument énorme, qu'il fallait qu'un barreau de chaise fût bien fait pour lui-même. Et on se dit, voilà une volonté, la volonté d'un ouvrier, qui n'existe absolument plus. Quand on fait quelque chose, bon, la beauté, effectivement, est en... enfin, mal en point, mais quand on fait quelque chose, on ne cherche pas du tout à ce qu'elle soit belle. On le cherche quand on est payé pour. Mais on ne cherche pas, quand on fait, quand l'ingénieur qui a conçu les derniers modèles de radars qui ressemblent à des tourelles de chars d'assaut, il s'est pas demandé si ça serait beau à voir sur le bord de la route. Et c'est, donc tout ce qu'on fait maintenant, tout ce qui est nouveau, curieusement, est obligatoirement laid. Vous avez remarqué, un téléphone, c'est atrocement laid. Un ordinateur, c'est laid. Un écran de télévision, c'est laid.
Pas tous.
Mais si, c'est laid. Enfin bon.
C'est subjectif.
Oui, c'est subjectif, bien sûr. Mais alors, pourquoi le bâton de chaise en lui-même ne réclame plus d'être beau? Voilà la chose dont je suis nostalgique.
Bon, j'invite les auditeurs qui s'intéresseraient à ce sujet à lire les écrits de William Morris, le fondateur de l'Art and Craft, vous savez.
Non.
Qui avait une vision, très belle, justement, de l'artisanat et du bien faire. Il voulait que les ouvriers soient bien traités, bien payés. C'était une très belle définition du socialisme, évidemment, totalement utopique. Et que tous les objets soient beaux, bien fabriqués.
Oui, mais justement, c'est ça la question. C'est une question extrêmement grave. C'est de se dire, où trouve-t-il la force? Où l'ouvrier trouve-t-il la force de faire son barreau de chaise? Où Beethoven trouve-t-il la force de recommencer la 50e fois son thème de l'opus 111? Où Flaubert trouve-t-il la force? C'est ça. Pour réécrire 50 fois la même page. C'est une force transcendante. Ou peut-être immanente, j'en sais rien. Enfin, c'est une force qui est extraordinairement mystérieuse. Et cette force-là, je pense que une des choses qu'il faut absolument comprendre, c'est que cette force-là se diminue tous les jours. Voilà.
Est-ce qu'on peut la provoquer, cette force? C'est le désir, c'est l'élan vital, ce que vous décrivez, Jacques Drillon. Le désir, c'est ce qui régit absolument tout, et c'est vrai qu'on en manque. On est dans un monde où la plupart du temps, on est quand même désabusé, atterré littéralement. Comment est-ce qu'on nourrit ce désir qui disparaît peu à peu?
Je ne sais pas.
Vous êtes l'auteur d'une œuvre. Quand on fait une œuvre, on ne peut pas être nihiliste, puisque sinon on ne ferait pas d'œuvre.
Mais c'est pas du nihilisme, c'est enfin.
Non, je sais, justement.
Moi, j'écris parce que ça me fait plaisir. Je ne suis pas poussé par une urgence. Je ne meurs pas sur l'heure si je n'ai pas écrit ma page, comme Amélie Nothomb qui parle de cicatrices et d'écoulement de sang, etc. Pas du tout. Quand j'en ai marre, j'arrête. Parfois, j'écris rien pendant 6 mois. Mais je n'ai jamais compris, en fait, ce qui me poussait à réécrire une fois. C'est pas de l'écrire qui est intéressant, c'est le fait de la réécrire. Il y avait quelque chose, il n'y avait rien, et tout d'un coup, il y a quelque chose. Et ce quelque chose, il faut que ça soit bien. C'est pour ça que les mots croisés m'ont énormément mobilisé dans ma vie. Je faisais des grilles, elles étaient vraiment excellentes, je peux vous le dire, en toute honnêteté, elles étaient vraiment très très bonnes. J'ai peaufiné des définitions, mais sans penser au joueur, je m'en fiche du joueur. Je voulais que la définition soit parfaite, et je n'ai jamais su pourquoi je voulais que cette définition soit parfaite.
Mais je crois que c'est une bonne nouvelle que nous soyons parfois mystérieux à nos propres yeux, Jacques Drillon.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
Pas grand-chose.
Un montage de la réalisatrice Éliane Girard pour vous, Jacques Drillon.
Ah, ça me fait beaucoup rire.
Mais oui, afin d'illustrer un de vos péchés mignons, faire des listes. Et là, vous entendez l'assemblage des 3 répliques de Mireille d'Arc dans Mort d'un pourri de Georges Lautner, puisque vous les avez relevées. Elle dit uniquement 3 phrases. Et c'est le sujet de votre prochain livre, Coda.
J'essaye de comprendre dans ce prochain livre pourquoi j'ai fait autant de listes, parce que j'ai fait un nombre de listes absolument incroyable.
Dans beaucoup d'ouvrages, Gide et la Crapette.
C'est une pente que je dévale. Encore une histoire d'huile. Dès qu'il me vient une idée, ça se transforme en liste. Et j'ai fait des listes d'absolument tout. Donc parfois les listes sont très brèves. Celle de Mireille d'Arc, vous voyez, c'est un modèle de brièveté, c'est un haïku. Mais j'en ai fait qui sont extrêmement longues. Effectivement, Gide à la Crapette, c'est très très long. Et j'ai fait des listes des mots d'une syllabe. Par exemple, je me suis rendu compte que en français, tous les mots importants, vin, pain, sel, vie, mort, corps, âme, voix, etc. Tout ça, ce sont des mots d'une syllabe. Comme si l'homme, pour dire les choses vraiment importantes, s'était dit, on va lui réserver une seule syllabe, quoi, pour gagner du temps, parce que ça, c'est vraiment fondamental, tandis qu'anticonstitutionnellement, ça n'a aucun intérêt.
Oui, et moutarde non plus, alors.
Oui, moutarde, pas grand chose.
Oh mon Dieu, je pensais le contraire. Merci beaucoup, Jacques Drillon, d'être venu dans cette émission.
Mais merci de m'avoir accueilli.
Vos derniers ouvrages sont, aux éditions du Lérot, Le cul rose d'Awa et Gide et la crapette, aux belles lettres, Dernier mot croisé, Diabolique, chez Gallimard, la réédition de votre traduction du Roi Lear de Shakespeare, de quoi patienter pour découvrir votre coda apparaître. On peut également lire vos petits papiers sur le site La République des Livres de Pierre Assouline. Chers auditeurs, la programmation musicale et les remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission, nous sur les réseaux sociaux. J'espère que votre âme a maintenant autant d'aplomb qu'une vache au tempérament courbe. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.